Bonjour à tous, nous sommes sur l'émission Politico Radio sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes sur une classe de première générale au lycée Albert Camus et nous sommes allés voir la pièce de théâtre Big Mother de Mélodie Moret au théâtre de l'Avant-Scène de Colombes. Cette pièce de théâtre nous parle d'une équipe de journalistes travaillant pour un journal d'investigation. Ils font la découverte d'une vaste supercherie. En effet, ils constatent qu'un parti politique qui vient d'être créé utilise des moyens trompeurs pour gagner les élections. La pièce parle donc de thèmes comme le journalisme, la politique et les fake news. Pour rappel, les fake news sont de fausses informations. On a pu voir ces fake news dans les élections présidentielles américaines qui ont été remportées le 5 novembre par Donald Trump. Ce dernier est beaucoup critiqué pour avoir utilisé de fausses informations pour remporter les élections. Nous allons donc parler essentiellement dans cette émission des élections américaines où étaient opposés les deux candidats majeurs, Kamala Harris et Donald Trump. Nous aborderons aussi le sujet des fake news. Dans un premier temps, nos deux journalistes Wyatt et Eleanor vont interviewer notre invité Thomas Huchon, réalisateur du reportage Unfair Game, comment Trump a manipulé la mairie. Le documentaire traite de comment Donald Trump a utilisé les fake news pendant sa campagne présidentielle de 2016 pour manipuler l'opinion publique. Ensuite, nous recevrons notre chroniqueur Swan qui parlera du soutien de Elon Musk dans la campagne présidentielle de Donald Trump. Puis nous allons joindre notre envoyé spécial qui revient des États-Unis et elle se fera interviewer par Edlin.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Accueillons maintenant nos deux journalistes, j'ai nommé Wyatt et Eleanor. Bonjour à vous deux, vous allez bien ?
Bien et toi ?
Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui recevoir Thomas Huchon, un journaliste, auteur-réalisateur. En 2017, il réalise son premier documentaire, Unfair Game, sur comment Trump a manipulé l'Amérique. Bonjour Thomas Huchon.
Bonjour.
Comment avez-vous réagi face aux résultats des élections américaines du 5 novembre ?
Bah, c'est pas vous mentir, j'étais pas très content, pour le dire franchement. Là, je suis très déprimé par ce chiffre, non pas par l'identité du vainqueur, mais par la manière dont il a gagné. C'est-à-dire que j'ai pas de ce qui est terrible avec cette histoire, c'est que ce candidat-là n'aurait pas dû gagner parce qu'il ment en permanence et que il change les règles du jeu d'une certaine manière. Et donc, c'est ça qui nous pose un vrai problème. Et puis, je suis aussi très inquiet pour toutes les minorités aux États-Unis qui vont subir de plein fouet ce que ce genre de personnes racistes, homophobes, va faire déferler comme haine dans son propre pays. Quoi.
Les résultats étaient-ils prévisibles, selon vous ?
Prévisibles, c'est toujours difficile de vous dire ça. Mais... moi, je l'avais dit. Oui, on est un certain nombre à avoir dit que c'était une possibilité et que c'était même une probabilité. Donc, c'était prévisible parce que l'ampleur de ce qu'il porte et de ce qui lui permet d'exister est à la puissance d'un tsunami. Et que les fake news qu'il diffuse à longueur de journée, alliées à la puissance des algorithmes sur les réseaux sociaux fait que tout ça prend une audience qui dépasse l'entendement. Hein, juste pour vous donner un chiffre, pour vous faire un petit peu imaginer ce que ça représente, l'idée qu'il y allait avoir une fraude lors de ces élections perpétrées par les démocrates pour empêcher Donald Trump de gagner, c'est 24 millions de tweets. 24 millions de tweets qui génèrent une audience de 181 milliards de vues. Okay. Ça fait que chaque Américain moyen a potentiellement vu sur Twitter à peu près 2000 fois le mensonge que les démocrates vont manipuler les résultats des élections. Donc ça, c'est d'une telle ampleur qu'en réalité, on ne peut pas résister à ça et on tombe fatalement dans le piège.
Dans votre documentaire, vous nous parlez de Robert Mercer. Pensez-vous qu'il a joué un rôle dans les élections de 2024 ?
Alors, j'ai beaucoup regardé ce qui se passait autour de la famille Mercer dans cette élection. Il se trouve qu'ils ont visiblement été moins importants dans cette campagne-là et qu'ils ont un peu été remplacés par un autre acteur, un autre milliardaire que tout le monde connaît puisqu'il est l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui a non seulement financé la campagne de manière absolument dingue, mais en plus mis au service de la propagande de fake news de Donald Trump, eh bien son réseau social, Twitter, X, qui a donc servi de caisse d'écho et de diffusion et de résonance de tous ces mensonges et qui leur a donné une ampleur sans précédent.
Dans votre documentaire, du coup, vous nous parlez de Robert Mercer. Pouvez-vous nous rappeler qui c'est ?
Robert Mercer, c'est un personnage qui est très intéressant et qui est en même temps très secret. C'est probablement l'homme qui a inventé la science qui a permis de fabriquer l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui travaille dans les années 1960 dans une entreprise qui s'appelle IBM et qui va développer le premier ordinateur, le premier logiciel qui permet de traduire automatiquement du langage. En réalité, Robert Mercer, il a fabriqué ce qui permet à Google Traduction, que vous utilisez toute la journée, d'exister. C'est quelqu'un qui ensuite a inventé la spéculation algorithmique, c'est-à-dire le fait d'utiliser les algorithmes pour jouer de l'argent en bourse, placer de l'argent. Et comme il était très talentueux, bah, il a réussi un peu le même coup sur la traduction du langage dans les années 60, sur la spéculation dans les années 90. Et à la fin, eh ben on retrouve ce personnage-là, à la fois comme principal financier de la campagne de Trump en 2016, comme principal financier de tous ces think tanks, hein, ces groupes de réflexion conservateurs aux États-Unis qui défendent des thèses climato-sceptiques, contre l'avortement, homophobes, racistes, contre l'immigration, enfin voilà, tout un tas de gens qui ne sont pas exactement des modèles d'humanisme et d'humanité. Et en fait, on retrouve ce personnage-là derrière le principal site de fake news de la campagne de 2016, Breitbart News, et derrière l'entreprise Cambridge Analytica, qui est donc une espèce de machine à récupérer des données personnelles pour être en capacité de cibler les électeurs américains avec le message le plus approprié pour les faire voter pour un candidat. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu un immense impact, hein, sur la démocratie américaine et qui continuera d'en avoir une, mais sur cette histoire de 2024, il a un peu été supplanté par Elon Musk.
Dans votre documentaire, vous utilisez le terme de psychométrie. Pouvez-vous expliquer cela à nos auditeurs ?
Alors oui, et je pense qu'il est grand temps que vos auditeurs comprennent ce que c'est que la psychométrie. La psychométrie, c'est une science très peu connue, qui est donc l'étude des comportements humains au travers des données issues des réseaux sociaux. En gros, on observe votre profil sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, et on arrive à tirer de ce profil tout un tas d'informations qui vous concernent et tout un tas d'éléments qui permettent de savoir qui vous êtes, et y compris de savoir parfois quelles sont vos motivations psychologiques inconscientes. Donc c'est une science qui est à la fois extrêmement intéressante, mais qui fait un petit peu froid dans le dos. Ça ressemble à un film d'anticipation, un film de science-fiction, puisqu'on arrive à un moment où des machines sont potentiellement meilleures dans la capacité à prédire nos comportements que des êtres humains.
Qu'est-ce que Cambridge Analytica et quel a été son rôle dans les élections américaines de 2016 ?
Alors, c'est une entreprise qui est la filiale un petit peu numérique d'un groupe qui s'appelle SCL Group. SCL, c'est une boîte qui fait de l'influence psychologique. Donc, c'est une entreprise qui travaille avec les principales ministères de la Défense, services de sécurité, services de renseignement, qui travaillent aussi pour des États où la démocratie n'est pas exactement hyper bien établie, et qui vont chercher à utiliser ce qu'on appelle des psy-ops, hein, des opérations psychologiques en temps de guerre. Ils vont essayer d'influencer un certain nombre de choses. Grosso modo, un exemple très concret pour vos auditeurs, ils vont travailler avec l'armée américaine durant l'invasion de l'Afghanistan en 2001. Ils vont identifier pour l'armée américaine les personnes en Afghanistan qui ont le plus d'influence sur les autres afin de leur diffuser des messages qui vont être plutôt pro-américains que pro-talibans. Bon, ça, c'est une première partie du truc. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est de la politique et notamment des élections. Et ils vont essayer d'offrir leurs services à des candidats pour les aider à gagner les élections. Et dans ce travail-là, ils sont capables d'aller très loin, et y compris de dépasser à minima nos principes éthiques et moraux, et à maxima, d'enfreindre la loi. Il se trouve que cette entreprise, elle apparaît aux yeux du grand public, du monde, en 2016, parce qu'elle va être utilisée dans deux scrutins. Le premier scrutin, c'est un scrutin qui touche l'Union européenne. C'est le scrutin en Angleterre sur le Brexit. Cambridge Analytica est la partie, la cheville ouvrière invisible de l'élection du Brexit. Et donc, ils vont faire ce travail-là en Grande-Bretagne et au même moment, ils vont être recrutés par les équipes de Trump pour les derniers mois de la campagne afin de l'aider à cibler les bons électeurs américains avec le bon message pour arriver à les faire basculer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à pousser des gens potentiellement qui pourraient voter démocrate avec des fake news à voter pour Trump. Et d'un autre côté, ils vont chercher à décourager notamment les populations afro-américaines, latino, dans un certain nombre d'États, à s'abstenir en leur envoyant des fake news disant qu'Hillary Clinton est une horrible candidate raciste. Et donc, dans ce double jeu qu'ils vont faire pour la campagne Trump, eh bien, en réalité, ils permettent d'aller chercher ces toutes petites marges sur lesquelles se fait bien souvent l'élection américaine, qui est une élection, vous le savez, qui est un petit peu compliquée, avec un système institutionnel un petit peu particulier, où on vote dans les États pour des grands électeurs qui vont ensuite désigner le président. Et donc, dans ces États, il y a des États qui comptent plus que les autres, parce qu'ils comportent un plus grand nombre de grands électeurs. Et bien, c'est en identifiant les bons États dans lesquels il fallait cibler les messages, les bons électeurs à qui les envoyer, les bons messages au bon moment. C'est ça qu'a fait Cambridge Analytica. Ils ont permis à Trump de manipuler l'Amérique.
Dans l'Unfair Game, vous nous parlez du dark post sur Facebook. Pouvez-vous nous éclairer sur ce mot, s'il vous plaît?
Oui, le dark post, c'est quelque chose qui a disparu bien heureusement, mais qui a été présent très longtemps sur la plateforme Facebook. En réalité, le dark post, c'est une publicité ciblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une publicité très spécifique, qui s'adresse à une population déterminée. Eh bien, en fait, ce dark post, si on dit dark post, ça veut dire le post sombre, si on le traduit littéralement, ben en fait, ce sont des publications qui vont être vues par les personnes ciblées, mais qui ne vont pas du tout être disponibles pour tous les autres. Et quand on parle de business, de publicité, c'est déjà pas terrible, parce que ça permettrait potentiellement à une entreprise de cibler des gens sans qu'on le sache. Mais là, quand on parle de politique, ça fait en sorte que vous pouvez vous adresser à des électeurs sans que vos adversaires puissent le savoir, sans que les journalistes puissent le savoir. Et donc, vous pouvez potentiellement faire n'importe quoi auprès de n'importe qui sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Ça pose un énorme problème, notamment en période électorale, parce que les élections, ça repose quand même un tout petit peu sur l'idée de la transparence. Ça repose un tout petit peu sur l'idée que tout le monde peut avoir accès aux éléments afin de, éventuellement, pouvoir les critiquer si on n'est pas d'accord, mais déjà d'avoir une forme de visibilité sur ce qui se passe. Le dark post, c'est un peu le cauchemar démocratique. Ce sont des publicités politiques invisibles pour tous ceux qui voudraient bien les observer, mais qui ont malgré tout un immense impact parce qu'elles sont vues par des gens et nous, les observateurs extérieurs, on ne peut pas en avoir conscience.
Comment avez-vous enquêté pour ce documentaire? Qui vous a aidé et quelles ont été les difficultés?
La principale difficulté, c'est que tout ça se passe aux États-Unis et que moi, je suis français et que j'habite à Paris et que je travaille à l'époque à Paris pour un média français. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'information, elle est potentiellement disponible puisque il y a des tas de choses qui sont présentes, mais qu'il faut la trouver et que c'est très long. Donc, ce sont des semaines et des semaines à fouiller sur Internet des tableaux Excel absolument incompréhensibles pour trouver les dépenses faites par la campagne Trump. Vous savez ce qu'on dit, c'est « follow the money », suis l'argent. Moi, j'ai essayé de suivre l'argent dans la campagne. La vraie difficulté dans cette histoire, c'est qu'il y a tout un tas de personnages pourtant hyper importants dans l'affaire de l'élection de Trump et dans l'affaire Cambridge Analytica, qui refusent de parler à des journalistes. Moi, j'ai contacté les équipes de Trump, ils n'ont pas voulu me répondre. J'ai contacté la famille Mercer, ils n'ont pas voulu me répondre. J'ai contacté Facebook, ils n'ont pas voulu me répondre. J'ai contacté les proches de Trump ou des candidats républicains, ils n'ont pas voulu me répondre. Donc, on se trouve quand même dans une situation dans laquelle les gens ne veulent pas répondre à vos questions. Et pour un journaliste, c'est un peu problématique parce que malgré tout, le métier de journaliste, ce n'est pas un métier d'accusateur. C'est un métier où on est obligé de faire peser ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire de donner la parole eh ben, aux deux aspects. Ça ne veut pas dire qu'il faut que chacun des deux côtés ait exactement le même temps pour s'exprimer, mais il faut que les deux puissent avoir la parole. Et donc là, on est effectivement dans une situation un peu compliquée. Quand les gens ne veulent pas vous répondre, eh ben, comment on fait? En l'occurrence, on dit qu'on leur a donné la parole et qu'ils n'ont pas voulu la prendre. Et c'est souvent interprété par les téléspectateurs comme un aveu de culpabilité. Donc c'est un peu comme ça. Mais effectivement, pour moi, la principale difficulté, ça a été d'être en capacité de toucher ces gens avec qui j'avais, moi, très envie d'échanger, mais qui ne voulaient pas me répondre.
Pensez-vous être le nouveau Edward Snowden ou pas ?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Les lanceurs d'alerte, dans cette affaire, bah, c'est Christopher Wiley, c'est Shamir Sani, sont un certain nombre de personnes qui ont pris des vrais risques pour leur sécurité en diffusant des informations qu'ils avaient à leur disposition dans leur travail, dans leur parti, dans leur entreprise. Moi, je ne suis qu'un journaliste qui enquête, récupère ces informations et tente de les vulgariser, c'est-à-dire de les rendre accessibles au grand public. Mais non, pas du tout. Et ce serait très, très, très prétentieux de penser que je suis à la hauteur avec mes documentaires des révélations fracassantes faites par Edward Snowden sur notamment l'utilisation par les services de renseignement américains d'un certain nombre d'éléments issus des réseaux sociaux et qui fait comprendre en réalité à la population mondiale que on est tous un petit peu espionnés sur nos téléphones avec les réseaux sociaux.
Merci Thomas Huchon pour toutes vos
réponses. Merci à vous.
Wyatt, qu'as-tu pensé de ce documentaire ?
Honnêtement, j'ai bien aimé le documentaire, mais je savais déjà que Trump était une mauvaise personne, mais là, c'est le comble.
Effectivement, je crois qu'on a tous un peu cette idée-là. Vous savez, si je peux vous laisser avec un conseil, vous me permettez ?
Oui.
Oui, oui.
Ouais. Je crois que dans la vie, ce qui est très important, c'est de se méfier de ce qu'on a envie de croire. En réalité, la meilleure raison pour laquelle on tombe dans le piège d'une fake news ou d'une théorie du complot, bah, c'est qu'en fait, on a un petit peu envie d'y croire à la base. Hein, donc, il faut se méfier un petit peu de nous-mêmes. Le premier et vrai rempart contre la désinformation, c'est avant tout l'autocritique et de lutter contre ses propres préjugés.
Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver ce documentaire Unfair Game sur la plateforme Prime Video. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.
Merci à vous trois pour cette interview, ce fut un plaisir. Maintenant, passons à la chronique de Swan sur Elon Musk. Bonjour Swan, comment vas-tu ?
Bonjour Baptiste, je vais très bien. Je vais donc faire une chronique sur l'alliance entre Elon Musk et Donald Trump pendant les élections présidentielles de cette année. Revenons donc un peu en arrière. En cette période d'élection, le candidat républicain Donald Trump a réussi à se faire un allié plutôt important pour développer sa campagne. Il s'agit donc du milliardaire Elon Musk. Pour résumer qui il est, c'est entre autres le propriétaire de Tesla, SpaceX et X, l'ex-Twitter, ce qui fait de lui l'homme le plus riche de la planète selon les spécialistes. On peut alors se demander en quoi consiste cette alliance. Du côté d'Elon envers Trump, on peut citer le fait que le milliardaire ne cache pas du tout son soutien envers le candidat. Selon le journal Le Monde, le PDG de X aurait utilisé son réseau social pour poster pendant le dernier mois de campagne pas moins de 877 publications pro-Trump ou pro-républicaines et 812 antidémocrates, avec beaucoup de désinformation. Il a aussi publiquement annoncé vouloir offrir 1 million de dollars par jour à un électeur ayant signé une pétition favorable à l'élection de Trump.
Mais alors Swan, penses-tu que Trump soutient Elon Musk en contrepartie de ce que tu viens d'expliquer ?
Absolument. Il y a en effet des contrats publics montrant des financements importants des entreprises de Musk de la part du gouvernement américain. On peut donc finalement suggérer qu'une fois Trump totalement au pouvoir, Elon Musk se verra davantage soutenu pour développer ses affaires. Ainsi, sans surprise d'apprendre que le milliardaire s'est vu offrir un poste au gouvernement américain en tant que ministre de l'efficacité gouvernementale. On peut donc conclure que ces deux géants américains ont tous deux des intérêts à cette victoire du camp républicain. Et visiblement, cette alliance est bien partie pour durer.
Merci Swan pour cette chronique intéressante. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale en écoutant Get Lucky de Pharrell Williams et des Daft Punk.
Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force.
yours from the beginning.
Nous voici de nouveau sur Politico Radio après cette musique.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Nous allons maintenant joindre notre envoyé spécial de retour des États-Unis, Ava, qui va se faire interviewer par Eline sur l'actualité américaine. Bonjour Ava, bonjour Eline, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour. Ava, vous êtes notre envoyé spécial. Vous revenez tout juste des États-Unis où vous étiez pendant la période des élections présidentielles de 2024 qui opposait la démocrate Kamala Harris au républicain et ancien président Donald Trump. Tout d'abord, Ava, pouvez-vous nous expliquer rapidement le système d'élection aux États-Unis ?
Alors, il faut savoir que le système d'élection aux États-Unis est très différent de celui en France. Ce sont des élections au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les citoyens électeurs américains ne choisissent pas eux-mêmes le candidat qu'ils souhaitent voir président. Ils élisent d'abord 538 grands électeurs qui vont à leur tour voter pour un des candidats. Pour pouvoir remporter les élections, un candidat doit avoir la majorité, c'est-à-dire au moins 270 votes.
Et quels sont les résultats tant attendus de ces élections ?
Comme vous avez pu l'entendre ou le voir, les élections étaient remportées par Donald Trump. Je dirais même largement remportées. Le candidat républicain a d'abord remporté à 50,4% contre 48% pour Kamala Harris, le vote populaire, qui est une compétition symbolique, mais qui n'influence pas les résultats. Il a ensuite gagné le vote des grands électeurs avec 312 votes contre 226 pour Kamala Harris.
Quel est le programme de ce nouveau président ?
Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump a fait beaucoup de promesses, souvent peu détaillées, mais qui traitent d'immigration, de justice et de géopolitique. La sécurité frontalière demeure une priorité absolue pour le nouveau président. Il a d'ailleurs déclaré qu'il mènerait la plus vaste opération d'expulsion de criminels venus de l'étranger de l'histoire américaine. Du côté économique et social, il a notamment promis de faire baisser les impôts, le coût des logements et de santé. Toutes ces promesses sans réel plan d'action, bien évidemment. Du point de vue climatique, la nomination de Donald Trump est une mauvaise nouvelle, étant donné qu'il est climato-sceptique, ce qui signifie qu'il met en doute les théories concernant le réchauffement climatique. Il a pour projet de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique pour la seconde fois. Il a également pour projet de supprimer les mesures de contrôle des armes à feu et de se rapprocher d'Israël. Donald Trump soutient des valeurs conservatrices ainsi qu'une politique étrangère isolationniste avec son American First qui met l'accent sur les intérêts des États-Unis avant ceux des autres pays.
Et donc concrètement, Ava, qu'est-ce que cela va changer ?
Concrètement, les nouvelles politiques promises par Donald Trump pourraient notamment accentuer les inégalités sociales et économiques, mais aussi avoir un impact sur les droits civiques, notamment sur ceux des femmes. Depuis l'élection, des commentaires misogynes et autres attaques sexistes circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme par exemple « Your body, my choice », posté par un influenceur suprémaciste blanc, et détournant le célèbre slogan « My body, my choice ». Ensuite, un retrait américain sur la scène internationale aura possiblement des répercussions sur les relations diplomatiques et commerciales.
Vous qui revenez tout juste des États-Unis, pouvez-vous nous raconter, nous décrire comment se sont passés les derniers jours avant l'élection ?
Comme vous pouvez le deviner, les derniers jours précédant cette élection, annoncée comme la plus serrée de l'histoire du pays, étaient très tendus. L'élection et ses résultats faisaient planer la menace de manifestations violentes comme l'invasion du Capitole par les partisans de Trump en janvier 2021 suite à la victoire de Joe Biden. Les citoyens américains ont alors assisté au déploiement d'un dispositif exceptionnel de sécurité comme des barricades installées autour des institutions telles que la Maison Blanche à Washington, autour du Capitole ainsi qu'autour de la résidence de Kamala Harris. Par ailleurs, je peux ajouter que ce ne sont pas seulement les quelques jours avant l'élection, mais toute la campagne qui a été tendue, Donald Trump ayant échappé deux fois à des tentatives d'assassinat présumées le 13 juillet 2024 et le 15 septembre 2024.
Pour rappel, en France, pour financer leur campagne, les candidats peuvent recueillir des dons de partis politiques et de particuliers limités à 4 600 € par personne. En revanche, aux États-Unis, le système de financement des campagnes est différent. Donc Ava, pouvez-vous nous expliquer ce système de financement ?
Effectivement, aux États-Unis, le financement des campagnes électorales n'est pas limité comme en France. Depuis 2008, les candidats s'appuient sur des financements privés pour défendre leurs idées. Aux États-Unis, comme en France, les dons peuvent provenir de particuliers ou de partis politiques. Cependant, les dons peuvent aussi provenir des comités politiques nationaux appelés PAC. Ils ont été créés par une décision de la Cour suprême en 2010. Et cette décision autorise un financement illimité des candidats par des entreprises, syndicats, associations et fondations au nom de la liberté d'expression. Attention, cela reste un financement indirect, ce qui signifie que l'argent ne revient pas directement au candidat.
Merci Ava pour toutes vos réponses.
Et merci à vous deux pour cette interview. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. On espère que cela vous aura plu. Merci à Julia, Clélia et Rosalie qui ont été intervenantes dans ce projet d'initiation à la radio et qui nous ont beaucoup aidés dans la création de ce projet. Je remercie aussi notre groupe qui est composé de Swan, Chloé, Oyat, Eleonore, Eline, Ava et moi Baptiste. Et à nos professeurs d'AGGSP qui ont utilisé beaucoup de leurs précieuses heures pour notre projet. Merci à tous, au revoir.